Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu. En ce dimanche matin encore, reçois toute la gloire. Je te loue, je te rends grâce, Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, de ce que tu es. Jéhovah. Alléluia. Nous te glorifions, Papa, toi qui nous aimes tant, oh Père, que ton flot coule en nous. Oh Papa, merci pour ce matin encore. J'aime ta parole. J'aime la beauté de ta parole. Quand elle nous est révélée, oh Père, c'est une véritable nourriture, un breuvage succulent, une véritable eau de vie qui coule en nous. Ah, Seigneur de Père Puissant, ce matin encore, je suis dans la joie de partager avec mes frères, mes sœurs, la révélation que j'ai eue ce matin dans cet enseignement encore. Parce que je me suis levée avec ce verset en tête et vraiment une quête par l'esprit d'aller à la recherche de la compréhension de ce verset. Oui, Père, dans le cadre de la rubrique « Dans le royaume de mon Père », cherchons le sens des mots pour avoir la connaissance de la parole de Dieu, pour chercher à connaître notre Seigneur, notre Dieu, et nous rapprocher de lui, de vivre dans son intimité. Et c'est le Saint-Esprit qui est le paraclet, qui peut nous y amener, qui peut nous conduire, parce que c'est lui notre enseignant, parce que c'est lui notre consolateur, parce que c'est lui notre expert en toutes choses, parce que c'est par lui que notre Seigneur fait toutes choses. Et j'ai toujours souvenir de ce que j'avais reçu de Dieu le Père quand j'avais soif de connaître, de comprendre sa parole, de connaître sa parole. Et il m'a dit, chaque fois que tu utiliseras cette méthode pour chercher ma face, je me laisserai trouver et mon esprit t'éclairera pour la compréhension. Merci, Papa, parce que ce jour encore, tu m'as rempli de certains aspects de ta parole que j'ai envie maintenant de partager avec mes frères et mes sœurs au travers de ce site Mission Enquête Héritage du Royaume, www.héritagederoyaume.com. Alléluia. Sois glorifié, sois honoré en toutes choses. Saint-Esprit de Dieu, viens, remplis ton temple et conduis-moi. Ce que tu as déposé dans mon cœur, dans ma pensée, dans la compréhension de ce verset, exprime-toi toi-même, exprime-le toi-même au travers de ma bouche, au travers de moi aujourd'hui, afin que le flot de vie qui est contenu dans cette révélation envahisse mes bien-aimés, envahisse mes frères, mes sœurs, enfants de Dieu, qui veulent grandir dans la connaissance de la parole de Dieu, qui veulent croître, qui veulent se développer, à saisir vraiment la quintessence de cette révélation pour leur édification et pour leur marche dans le partenariat avec Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Que tout glorifie ton nom Jésus et que toute la gloire en revienne à l'éternel Dieu, notre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Mes bien-aimés, que la paix et l'amour agapéo de notre Seigneur soit sur vous, remplissent vos vies, vos maisons, vos familles, et que vous soyez de véritables sources au nom puissant de Jésus. C'est vraiment avec plaisir que je vais partager ce message avec vous aujourd'hui. Matthieu 11, 12. Ce verset qui dit, « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. » Vraiment, ce verset m'a très souvent fait méditer. Je me suis toujours interrogée. Parce que tout au long de ma progression dans la foi, de la fréquentation des églises, on constate souvent, on voit des frères, des sœurs qui ont dans l'apparence beaucoup de zèle comme ça, ou qui font, ils ont un tempérament chauvillant, comme on dit, ils ont vraiment, tout est dans l'expression, les grands mouvements, et qui fonctionnent de cette façon, ils aiment utiliser ce verset pour justifier beaucoup de choses, les actes qu'ils posent. Parfois on se dit, mais comment il peut agir de cette façon? Ah non, ma sœur, le royaume des cieux est forcé, le royaume des cieux est forcé, c'est les violents qui s'en emparent, il faut faire les choses vraiment avec violence, etc. Et tu te rends compte qu'entre ce qui est dit Et l'acte qui est posé, tu t'interroges encore vraiment sur la seigneurie qu'il peut avoir dans cet acte et la vérité qui s'y colle venant de ce verset. Donc aujourd'hui, je bénis vraiment le Saint-Esprit. Je ne sais pas, il y a sans doute un contexte que j'ai vécu et sur lequel il voulait encore m'éclairer. Et il lui a plu en ce matin que ce soit ce verset qui retienne son attention. Et du coup, ça retient le mien aussi. Pour ceux qui ont l'habitude de suivre mes messages, ils savent que j'insiste beaucoup sur le sens des mots. Parce que je pense que dans la parole de Dieu, les Anglais disent word, c'est-à-dire mot. En français, on dit la parole. Mais la parole, c'est beaucoup de mots mis ensemble. La parole, c'est toute une conversation. Donc, pour moi, cette parole est riche en mots. Cette parole est riche de beaucoup de mots. Et chaque mot a une telle profondeur. Et quand on sait que la parole de Dieu a été écrite d'abord en hébreu, et quitte même en lettres hébraïques, et qu'on s'est un peu intéressé à la langue hébraïque, à cette forme d'expression hébraïque, on sait quelle est la complexité qu'il y a, qui se trouve dans l'écriture hébraïque. Et on sait aussi que chaque mot porte en lui-même la plénitude de son sens. Et chaque mot porte en lui-même vraiment toute une essence, toute une vie. Donc, moi, j'ai reçu vraiment du Saint-Esprit d'aller toujours chercher derrière le mot de traduction, que ce soit en français, en anglais ou autre, le mot de traduction, le véritable sens du mot hébraïque, du mot dans la version originale, pour essayer de mieux comprendre de quoi il s'agit. Et chaque fois que j'ai fait comme ça, je suis toujours, quasiment chaque fois, étonnée de l'écart qu'il peut y avoir entre la compréhension française du mot français qui est traduit et l'explication, la profondeur du sens hébraïque qui est donné au mot d'origine qui se trouve traduit en français. Donc ça m'enrichit et ça m'éclaire vraiment. Et ça permet de comprendre le sens véritable qui était donné. Ça, c'est la première approche. C'est ce que nous allons faire. Nous allons, ici, dans ce verset, il y a trois mots qui méritent que nous comprenions quel sens. Jésus-Christ, notre Seigneur, lorsqu'il s'exprimait comme ça dans la Bible, parlait de quoi? Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Donc, est forcé là, il faut qu'on comprenne. Et ce sont les violents qui s'en emparent. On va aussi comprendre. Violent. De quel violent? De quoi il s'agit? Qui est-ce qui est violent? Et si ce terme se rapporte à quoi? Il faut que nous comprenions. Parce que si nous devons être des violents, il faut que nous sachions ce que ça veut dire. Et le verbe s'en emparer. Quand on s'empare de quelque chose, qu'est-ce que ça signifie? En français, certainement, ça a un sens, ça a une signification. Mais ça traduit un mot hébraïque. Est-ce que le mot hébraïque a le même sens qu'en français? Il faut que nous allions le voir pour pouvoir comprendre ce que Jésus-Christ, notre Seigneur, lui a eu dans la pensée pour nous dire ça, ou au moins dans l'expression hébraïque pour dire ça. Les mots sont vraiment choisis dans la Bible. Ce sont des écritures saintes. Ce sont des mots révélés. Donc, ils ne sont pas là par hasard. Essayons de les comprendre. Alléluia. Voilà. Avant de commencer à traiter individuellement ces mots, j'ai aussi une autre façon, une autre approche. C'est que ce sont des versions de traduction. La version que j'utilise le plus couramment, c'est la version Louis II, la Bible classique. Mais j'ai aussi d'autres versions de traduction, parce que parfois, il y a des nuances. Vous savez, en français, il y a des mots et des synonymes de mots, etc. Et je regarde ce qui a été utilisé par d'autres traducteurs pour exprimer cette pensée. Et j'ai retenu deux autres versions qui ont utilisé d'autres mots pour exprimer ce verset, Matthieu 11, 12. C'est la version Second 21. La version de la Bible Second 21 dit ceci. Depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est assailli avec force. Donc, lui, second dit, est forcé. Et second 21 dit, est assailli avec force. D'accord? Et c'est les violents qui s'en emparent. Ok? Donc, le mot assailli retient mon attention. Nous allons aussi l'évoquer lorsque nous allons travailler les mots. La version Martin dit ceci. Or, depuis le jour de Jean-Baptiste, jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé, jusque-là il n'y a pas de changement, et les violents le ravissent. Et les violents le ravissent. Un nouveau mot intervient. C'est le verbe ravir. Donc, nous allons aussi nous intéresser à ce mot-là pour définir s'en emparer, devient ravir ou assaillir. Donc, nous allons, ça va faire à peu près 5 mots que nous allons, dont nous allons essayer de comprendre le contexte. Amen. Efforcer, le terme forcer. En hébreu, le terme qui est traduit dans la version hébraïque, c'est dans la version grecque, pardon, parce que nous sommes dans les Nouveaux Testaments, dans la version grecque. Je vais aussi donner une précision par rapport au langage grec. Savons que les langues qu'on dit latine, ont une source en latin. Le latin aussi c'était la forme d'expression du royaume grec et romain. Les premières écritures dans les versions latines se sont faites dans le grec. Et à l'époque où notre Seigneur Jésus a commencé son ministère, a fait son ministère, toute la Judée et toute la zone israélite, Jérusalem et autres, étaient sous la domination des Romains. Et on s'exprimait en grec. On écrivait en grec. Donc les apôtres ont écrit les évangiles en grec. Tous les écrits qui ont été trouvés à ce moment pour cette zone ont été écrits en grec. Donc nous allons lire l'expression grecque de la pensée de ceux qui ont écrit ce livre. Ok. Le terme forcé, c'est biadzo. Biadzo se traduit par user de violence. C'est le terme forcé que nous essayons de traduire. Donc, user de violence. Ça prend un sens véritable en disant employer la force pour faire quelque chose. Appliquer la force pour obtenir quelque chose. Infliger avec force un désir de faire quelque chose. Dans tous les cas, le terme biadzo est un adjectif. Cet adjectif dérive d'un autre mot. Et c'est là où ma surprise a commencé à être grande. Le terme biadzo est l'adjectif d'un mot qui s'appelle bios. Il vient du mot latin, du mot grec bios. Et le mot grec bios veut dire vie. Mais une vie assez particulière. Une vie dans un contexte particulier. Le mot bios se rattache à la création, à la vie naturelle, aux choses qui vivent naturellement. Dans un sens large d'avoir la vie, dans un sens large d'être animé d'un esprit d'animation, d'un esprit qui nous fait vivre. Vous vous souvenez dans Genèse 1, il écrit quelque chose de particulier. On dit que Dieu a formé l'homme à partir de la terre. Quand il l'a façonné, il a soufflé en lui un esprit qui l'a animé et il est devenu de matière inerte à matière animée. C'est ce souffle de vie qui permet aux hommes d'être animés, d'être en cohésion avec la nature vivante, de la vie terrestre ici sur la terre. C'est pour ça qu'on parle aussi de ce qui est vital en nous, ce qui apporte cette capacité de s'animer. Nous marchons, nous ouvrons, nous parlons, nous crions, nous sautons, et toutes ces choses. C'est aussi un mot bios qui s'attache à tout ce qui existe sur cette terre, tout ce qui est matériel, naturel, etc. Ça traduit aussi le temps de vie, c'est-à-dire de notre vie terrestre. Ça traduit aussi le bios, c'est tout ce qui est rattaché à cela. C'est tout ce qui nous rattache à l'existence terrestre. Nous naissons et nous mourons. Entre les deux, nous avons vécu sur cette terre. Pour pour bien comprendre la notion, il faut que nous l'opposions à l'autre aspect de vie. Parce que dans la parole de Dieu, il y a un autre aspect de vie. Lorsque la parole nous dit ceci et que Jésus-Christ, notre Seigneur, dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Dans cette phrase, le mot, le terme « vie » ne se traduit pas par « bios ». Non. Le terme « vie » qui est dans ce verset-ci se traduit par « zoé ». La vie « zoé ». Et cette vie « zoé » signifie quoi? C'est une vie qui n'est pas rattachée à la nature. C'est une vie qui n'est pas terrestre. C'est une vie qui n'est pas rattachée à la création de la terre. Ou à la vie des choses qui se meuvent sur cette terre. C'est défini comme étant la plénitude absolue de vie. La plénitude de vie qui appartient à Dieu et à Christ. Et dans lequel le logos, c'est-à-dire la parole de Dieu, s'est faite humaine. Vous vous souvenez que dans les évangiles de Jean, Dieu dit au commencement, il y avait la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Rien ne s'est fait sans la parole. Elle s'est faite chair en notre Seigneur Jésus-Christ. Et elle est venue parmi les hommes. Cette vie dans laquelle le logos, c'est-à-dire la parole de Dieu, s'est incrustée pour venir en l'homme. C'est la vie réelle et véritable. La vie qui est vouée à Dieu. Celle qui est bénie et celle qui devient éternelle. Cette vie, c'est la vie par laquelle nous naissons de nouveau en Jésus-Christ. C'est la vie que Christ nous donne par sa mort et sa résurrection. Donc ces deux vies n'ont rien à voir ensemble. Donc lorsque nous traduisons force, et j'étais donc étonné de voir que en allant traduire le mot force ou forcer, nous nous retrouvons en train de traduire bios, en train de dire nous parlons du bios, nous parlons de la vie sur terre, nous parlons des choses terrestres, nous parlons des choses qui sont rattachées au fonctionnement de la terre. Je dis, ah, alléluia, amen. Parce que dans ce contexte, ces forcés-là n'ont rien à voir avec la vie zoé. Ça n'a rien à voir avec la vie en Christ. Ça n'a rien à voir avec la vie qui vient de Dieu et qui n'est pas terrestre, qui est céleste et qui conduit à la vie éternelle. Alléluia. Si cette différence est claire, on continue. Nous sommes en train d'essayer de traduire le terme forcé ou utiliser fait avec force. Donc, nous continuons. Le deuxième aspect du bios, parce que nous avons vu que l'aspect du bios, c'était notre vie, c'était le temps de vie que nous passons ici, ça nous rattachait aux choses terrestres, ça nous rattachait à la création, etc. Le deuxième aspect, c'est la vie pour désigner, le bios pour désigner tout ce qui est matériel et qui concourt à cette vie terrestre. Ce sont nos ressources, ce sont nos richesses, nos biens. Ce sont les plaisirs de vie que nous avons, ce sont même nos orgueils, nos convoitises, nos efforts, nos succès. Tout ce que nous pouvons obtenir par nos propres capacités. Ce sont nos possessions, c'est ce que nous réclamons, nous revendiquons comme nos appartements, ce qui nous revient de droit, les héritages, des trucs comme ça. Ce sont nos superflus, c'est tout ce qui se rattache à notre regard, à nos attentes de l'homme vers l'homme ou de l'homme vers la créature. Quand quelqu'un possède son champ, il regarde ça avec intérêt. C'est de l'homme au champ. Quand quelqu'un possède des trésors, d'une richesse, des comptes bancaires pleins, il regarde à l'argent et c'est une relation de lui à l'argent. Toutes ces choses terrestres qui concourent. Même quand nous regardons nos familles, le nombre d'enfants que nous avons, ainsi de suite, ça nous rattache de nous à ces choses terrestres. Et c'est toujours un aspect de bios. Et ce terme bios utilisé dans la Bible, quand j'ai parcouru plusieurs versets qui ont utilisé ce même mot, et le point commun à tous, ça ramenait toujours aux choses de la vie terrestre. Dans Luc 8, 14, le terme bios apparaît et ce verset dit, parce que Jésus essaie de parler du royaume des cieux, il dit, pour la parabole du semeur, il dit, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et l'ensemble de ces mots se traduit par bios. Alléluia. Ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Un autre verset, en parlant de la femme à la perte de sang. Nous connaissons l'histoire de la perte de sang et le miracle qu'elle a eu à partir du moment où elle a cessé de compter sur son bios et qu'elle a levé les yeux pour compter sur Zoé, Jésus-Christ. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang. C'est Luc 8, verset 40, à son verset 43. Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins. Ce qu'on a appelé le bien là, de la femme, ça s'est traduit par bios. Je vais en citer un troisième. 2 Timothée 2, verset 4, il y a un verset quand Timothée se met à exhorter le peuple, il dit, vous savez, il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. C'est-à-dire, même sur les terres terrestres, il n'y a pas de soldat que s'il veut plaire à son général qui l'amène à la guerre, s'embarrasse de ces choses de la vie, il ne lui plaira pas. Parce que comment veux-tu faire la guerre? Comment veux-tu être efficient au front si tu t'embarrasses des choses de la vie? Et les affaires de la vie, là, on a traduit ça par bios. Le même mot qui se traduit par force dans le verset que nous avons lu. Un autre verset, 1 Jean 2, verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, bios, ça ne vient pas du Père. Mais il vient du monde. Moi, j'ai compris une chose. Lorsqu'on parle de force, là, le « est forcé » là, c'est l'usage que nous pouvons faire de nos bios. C'est l'usage que nous pouvons faire des choses du bios que nous considérons comme notre force, nos capacités, qui nous donnent tant de suffisance, d'assurance dans le monde. Le royaume des cieux est forcé. C'est-à-dire que ceux qui sont dans le forcing là, ils sont dans l'utilisation du bios, de leur bios. Ils sont dans l'exploitation de leur bios. Ils sont dans la mise en route de leur bios. Il n'y a pas. C'est bien. Si nous avons compris ce sens du bios, qui est à l'opposé du zoé, et que nous avons compris que le terme forcé est relatif à ce bios, nous pouvons avancer. Le verset continue, Matthieu 11, 12. Il continue en disant, « Et !» C'est toujours que je dis, quand je prêche, qu'aucun mot n'est mis à hasard dans la parole de Dieu. Et nous parlons français. Ça veut dire que même les propositions, les adjectifs, les adverbes, toutes ces choses, ont une importance. Le terme « et » ici signifie en français un adverbe de coordination. Ça veut dire que ça coordonne deux choses. Ça met deux pensées en commun. Un bout de phrase et un autre bout de phrase. Ils sont indissociables. Ils sont non dissociés. Ils vont ensemble. C'est le « et ». Ça et ça. C'est différent du « car ». « Car » exprime une conséquence. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas le premier, il n'y aurait pas le deuxième. Non. Avec « et », les deux peuvent exister indépendamment. Mais quand on les met ensemble, ça veut dire que pour avoir un sens, il faut qu'ils soient ensemble. Donc, ici, c'est « le royaume de ceux est forcé » et « ce sont les violents qui s'en emparent ». Donc, continuons notre phrase et voyons les violents. De quels violents il parle ? Je vais chercher le sens du mot violent, le terme violent. Et ça se définit par le mot grec biastes. Même avec mes simples yeux, je vois que bios, biastes et biazo ont une même racine, c'est bien là. Okay? Et j'ai dit, ah, ça se définit comme étant ceux qui utilisent la force. Donc, comme nous avons déjà défini le terme force, ceux qui font usage de bios, de leur bios, ceux qui exploitent leur bios, ceux dont le bios est le faire valoir, c'est eux les biates, c'est eux les violents. Donc, ceux qui font acte de leur biazo, donc de leur bios, ceux qui s'appuient sur leur force, leur richesse, leur possession, leur position, leur être. Ce sont ceux-là que la parole qualifie de biates. Jusque-là, ça me semble logique. Je parle de violent et je dis, il faut que je comprenne le terme violence. Parce que tout à l'heure, quand j'ai cité les versets, les autres versions, il y a ceux qui ont utilisé le terme assaillir et ceux qui ont utilisé le terme ravir et ceux qui ont utilisé le terme violence. Darby, par exemple, a utilisé, voilà comment il dit le verset, « Mais depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est pris par violence et les violents ravissent. » Le ravissent, voilà la version Darby. Pris par violence ou efforcé, c'est la même chose. Mais essayons, j'ai poussé ma curiosité encore pour aller jusqu'à comprendre, voir si le terme violence et le terme les violents voulaient dire la même chose, si nous étions toujours sur une même longueur d'onde. Et quand je vais regarder, voilà ce que je vois. Le terme violence signifie en force, vigueur, pouvoir, fortune. J'ai dit ok, ça me ramène encore à la richesse, ça me ramène encore aux positions, ça me ramène encore à la force physique, ça me ramène encore à tout ça. Et il explique en disant, le terme violence signifie faire preuve d'une vigueur qui génère le pouvoir. Ça a trait aux richesses et ça a trait à la force physique des hommes. Le terme violence a trait à la force physique des hommes, bien sûr, a trait à leur richesse. Ce qu'ils peuvent utiliser leur bien matériel pour pouvoir dominer. Ils peuvent utiliser leur vigueur pour que cela engendre un pouvoir qu'ils exercent sur quelque chose ou quelqu'un. Et je me suis dit, violent et violence, nous sommes en phase. Il n'y a pas d'écart. Tant mieux, nous pouvons donc le définir clairement. La violence, c'est comme on définit le terme violence. On dit la violence, c'est utiliser ou exploiter ses atouts naturels, matériels, ça peut être la force physique ou sa beauté naturelle. Et il y en a qui naissent forts, costauds, grands, et d'autres tout petits, tout chétifs. Il y en a qui naissent beaux, beaux de figure, comme dit la Bible parfois. Et d'autres qui naissent moins beaux, avec des traits moins attirants pour l'œil de l'homme. Il y en a qui utilisent cette position de beau et grand pour dominer, pour s'accaparer, pour exercer la force. Il y a ceux qui utilisent leur richesse, leur bien matériel, leur position, pour dominer et pour prendre par force ce qu'ils convoitent, ce qu'ils ont choisi de faire, ou ce qu'ils préfèrent tout simplement. Ils exercent ainsi un pouvoir de domination, pour retenir pour eux ce qui de fait ou de droit, ne leur revenait pas. C'est ça la violence. Continuons, il nous reste un mot à expliquer. C'est s'en emparer. Mais avant ça, les mots violents s'en emparent a été expliqué, a été traduit ici dans Second 21 par le mot assaillir. Il a dit, le terme forcé a été remplacé par le mot assaillir. Le royaume des cieux est assailli avec force. Et j'ai dit assaillir. Quand nous parlons des assaillants, nous savons que ce ne sont pas des amis, ce ne sont pas des partenaires. C'est un terme qui traduit une opposition, une adversité. Ce sont des conquérants qui arrivent pour posséder, prendre des territoires ou des biens d'autrui. Un assaillant, c'est ça. Donc ce qui est assailli de force ne peut pas être considéré comme un ami. Soyons clairs là-dessus. Et le mot s'emparer. Ce sont les violents qui s'en emparent. Mais bien sûr, le terme emparer, c'est enlever avec force. C'est réclamer ardemment quelque chose pour soi-même. C'est même pas pour les autres. C'est même pas pour la multitude. C'est pour soi-même. C'est-à-dire qu'il y a un esprit égoïste dans cette notion de s'emparer de quelque chose. C'est arraché. Voilà les termes qui définissent. Voilà les synonymes du mot emparer. C'est arraché. Quand tu arraches quelque chose, tu dénatures. Tu déracines. Quelque chose était profondément planté quelque part. Quand on l'arrache, c'est qu'on l'a déraciné, on l'a disjoint de sa source. Ce n'est pas des mots qui sont des mots de bénédiction, ça. Généralement, quelque chose qu'on a même arraché de cette façon, même quand on s'en empare, quand on garde pour soi, cette chose perd la vie. Parce qu'elle perd. On l'a enlevée de sa source, de son lieu de vie. Donc, quand on arrache, on a peut-être eu cela pour soi, mais cette chose va perdre sa vie, va perdre son flux, parce qu'elle ne sera plus nourrie. Donc, arracher n'est pas une bonne chose, sauf si c'est le but poursuivi. Oui, quand nous prions pour que le Saint-Esprit arrache de nous ce qui est mauvais, tant mieux que cette chose meure, qu'on la déconnecte d'une source à laquelle elle n'avait pas à être, parce qu'elle était plutôt toxique. Donc oui, Saint-Esprit de Dieu, déracine, arrache ce que Père n'a pas planté en nous. Ce qui pousse en nous et qui n'est pas bon, arrache que cette chose meure. C'est la même chose. Mais ici, nous parlons du royaume des cieux. Nous parlons de ceux qui veulent s'emparer du royaume des cieux. Que quelqu'un arrache le royaume des cieux. Ça doit être le royaume des cieux si tu l'arraches des cieux, donc tu l'arraches de l'essence de Dieu pour t'en emparer. Ça va perdre sa source de vie. Parce qu'elle n'est plus connectée à la source divine qui le fait vivre. Même le royaume des cieux a besoin d'être attaché au roc qui est Jésus-Christ pour avoir la vie. Donc si tu arraches, tu ne fais pas de bien. Ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas positif. La version Martin traduit ça par ravir. Quand on va ravir quelque chose à quelqu'un, oh, c'est prendre par force ce qui ne te revient pas. Prendre par force ce qui n'est pas à toi. Prends par force ce qui ne te revient pas de droit. Et ce terme en latin veut dire harpazo, comme le harpon, harpazo. Le verset Matthieu 13, 19 nous parle de harpazo, là, que dont nous devons nous méfier. Lorsque quelqu'un écoute la parole du royaume et ne le comprend pas, que fait harpazo? Le malin vient harpazo cela, ce qui a été semé dans son cœur. Il harpazo ça et s'en va. Cet homme est celui qui a reçu la semence sur le long du chemin. Oh, pauvre de ce qui est harpazo. Quand c'est harpazo, qu'il était dans le bien et qu'il est harpazo, il est mal. Il vaut mieux que ce qui est dans le royaume reste connecté au royaume. C'est nous qui devons entrer dans le royaume de Dieu pour en jouir. Nous ne devons pas l'harpazo. Nous ne devons pas nous emparer. Nous ne devons pas l'arracher de là où il est. Oh, va shake. Ah, gloire à Dieu. Parce qu'il y a d'autres paroles qui parlent toujours de ce harpazo, mais qui disent quelque chose de bon. Jean 10, verset 28-29, nous donne deux choses. C'est Jésus, notre Seigneur, qui parle. Il parle de ceux qui sont en Christ, il parle de ceux qui sont en lui. Il parle, il dit, je leur donne la vie éternelle et elle ne périra jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Ceux à qui Christ donne la vie éternelle. Il dit, personne ne les ravira de ma main. Et c'est apado. Personne n'apadora ceux qui sont dans la main de Jésus. Il continue dans le verset 29 et il dit, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir apado de la main de mon Père. Oh, et qui disait que le royaume de Dieu est apado? Non. Mes frères, mes sœurs, nous allons comprendre ce que notre Seigneur Jésus voulait dire. Nous allons placer ce verset dans son contexte et nous allons comprendre ce que notre Seigneur Jésus voulait nous dire par ce verset-là. Nous ne serons plus dans la confusion. Nous allons cerner parce que visiblement, ces explications nous montrent que ce qui fonctionne en proclamant ce verset ou en voulant s'aligner sur ce verset ne sont pas dans le juste, ne sont pas dans le vrai. qu'ils aient le discernement. Rabacheke. Nous allons comprendre de quoi Jésus-Christ, notre Seigneur, voulait attirer l'attention de la génération, de cette génération-là, en ce temps-là, et même de la nôtre aujourd'hui. Parce que ceux qui n'ont pas encore compris ça sont de cette génération. Alléluia. Et ne sont pas encore de la génération du royaume de Dieu. Alléluia. Rabacheke. Mes frères, mes sœurs et moi, nous savons que nous sommes de la génération de Dieu. Parce que nos cœurs aspirent à être de la génération de Dieu. Parce que nous proclamons Christ et que nous demandons au Saint-Esprit tous les jours de nous révéler la parole de Dieu, de nous éclairer, de nous conduire, de nous révéler là où nous faisons des erreurs, de nous faire comprendre le sens de Dieu et de nous faire saisir la quintessence de la parole de Dieu, obéir, mettre en pratique. Alléluia. Afin d'être vraiment en Christ, dans le royaume de Dieu. Amen. Rabba Sheikh.